بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فلا زال الحديث عن الأمثال في القرآن الكريم نتدبرها ونتذكرها مصداقا لقوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، ومصداقا لقوله تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر فهل من مدكر، ومصداقا لقوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. Donc إن شاء الله تعالى nous allons continuer et terminer aujourd'hui notre cours sur les paraboles, les exemples, les comparaisons données par Allah Jalla Jalaluhu dans son livre. Et ceci afin de méditer, de réfléchir sur ces versets, conformément à la parole d'Allah Azza wa Jalla lorsqu'il dit: voici un livre béni que nous avons fait descendre sur toi afin qu'il médite sur ces versets et que les doués d'intelligence réfléchissent. Et conformément à la parole d'Allah Azza wa Jalla lorsqu'il dit: nous avons rendu le Coran facile pour la méditation, y a-t-il quelqu'un pour réfléchir? Et Allah Azza wa Jalla dans son livre reproche le fait de ne pas méditer le Coran et de ne pas en tirer des leçons, des enseignements et des exhortations. Allah Azza wa Jalla dit: ne médite-t-il pas le Coran, ou bien y aurait-il dans leur cœur des cadenas? Et notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a incité à la lecture du Coran, à l'étude du Coran et à sa méditation. J'ai fi sahih muslim min hadith Abi Huraira radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala: wa majtama'a qawmun fi baytin min buyutillah يتلون كتاب الله ويتدارسونه إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده الحديث. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a incité, encouragé à l'étude, la lecture et la méditation du Coran. Il a été rapporté dans l'authentique, le muslim, d'après Abu Hurayra radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'y a pas un groupe de personnes qui se réunissent dans une maison des maisons d'Allah pour lire le Coran et l'étudier sans que la sérénité ne descende sur eux, sans que la miséricorde ne les enveloppe, sans que les anges ne les encerclent et sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala les mentionne auprès de lui. Et comme nous avons dit hier, Allah Azza wa Jal, dans plusieurs versets du Coran, nous explique le but pour lequel il a donné des comparaisons, des paraboles. Il y a beaucoup de versets, notamment celui-là où Allah Azza wa Jal dit « وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ فضرب الله عز وجل الأمثال في القرآن للناس لعلهم يتفكرون لعلهم يتذكرون لعلهم يعقلون ولعلهم يتقون الله عز وجل يعني بهذه الأمثال وبتدبرها يتقون الله سبحانه وتعالى بامتثال أوامره واجتناب نواهيه وذلك أن الأمثال تقرب المعاني إلى الأفهام وتجعل المحسوس معقولا وتجعل البعيد قريبا. Donc parmi les versets qui montrent que dans le Coran il y a des exemples et que l'on doit méditer le Coran et ses exemples, il y a la parole suivante où Allah Azza wa Jalla dit, certes nous avons déployé pour les gens dans ce Coran des exemples de toutes sortes, afin qu'ils se souviennent. Un Coran en langue arabe dénué de tortuosité, afin qu'il soit pieux. Donc Allah Azza wa Jalla nous informe dans ce verset qu'il a déployé dans le Coran énormément d'exemples dans tous les domaines de toutes sortes, afin que les gens méditent, réfléchissent, se souviennent, pour que cela les amène et les pousse à la crainte d'Allah Azza wa Jal, à observer les ordres d'Allah et à éviter ses interdits. Dans ces exemples, Allah Azza wa Jal nous fait peur. Dans ces exemples, Allah Azza wa Jal nous menace, nous exhorte, nous rappelle les difficultés dans cette vie, les difficultés dans notre vie, afin qu'on atteigne le degré de taqwa. Et effectivement, les exemples permettre aux personnes d'assimiler une notion et de mieux la comprendre. Ainsi, ce qui est abstrait devient concret et ce qui est lointain devient proche. Et nous-mêmes, dans la vie de tous les jours, lorsqu'on explique une notion à une personne et que cette personne ne nous comprend pas, on lui donne des exemples. Et avec les exemples, généralement, les paroles deviennent plus claires. Et hier, par la grâce d'Allah Azza wa Jal, nous avions commencé par citer les paraboles qui concernent le tawhid et le shirk. Parce que les paraboles qui parlent du tawhid, de l'unicité d'Allah, et qui nous exhortent à l'unicité d'Allah, et qui nous ordonnent l'unicité d'Allah, et les paraboles qui parlent du shirk, qui nous mettent en garde contre le shirk et sa gravité, ces paraboles sont les plus nombreuses dans le livre d'Allah Azza wa Jal. Et aujourd'hui, inshallah ta'ala, avec l'aide d'Allah Azza wa Jal, sans laquelle on ne peut rien faire, nous allons inshallah ta'ala cité et traité d'autres paraboles qui sont venues dans le Coran dans différents domaines. Puisque comme Allah Azza wa Jalla dit, وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ. Nous avons déployé dans ce livre des exemples pour les gens de toutes sortes. Des exemples dans l'unicité et dans l'associationnisme, et des exemples dans la vie d'ici-bas et dans la vie de dans l'autre vie, des exemples dans la science et l'ignorance, des exemples dans la corruption et la réforme, et beaucoup d'autres exemples que nous allons citer, Inch'Allah. Donc dans le premier exemple que nous avons cité, qui se trouve dans Sourate Ar-Ra'd, Allah Azza wa Jalla dit « أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَابِيًا وَمِمَّا يُوْقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلِ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسِ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالِ. Allah Azza wa Jalla dit dans le sens du verset, il fait descendre du ciel une eau qui s'écoule dans les vallées selon leur taille. Et le torrent porte une écume semblable à celle que le feu produit lors de la fabrication des bijoux et des ustensiles. De la même manière, Allah Azza wa Jalla donne un exemple, le vrai et le faux, la vérité et le faux. L'écume du torrent et du métal fondu s'en va rejeter, tandis que l'eau et les objets utiles aux hommes demeurent sur terre. Ainsi Allah Azza wa Jal propose des paraboles et des exemples. Que veut dire cette parabole? Ici Allah subhanahu wa ta'ala compare la révélation qu'il a fait descendre pour faire revivre les cœurs à l'eau tombée du ciel pour donner à la terre de quoi faire pousser sa végétation. Ici Allah Azza wa Jal établit une comparaison, établit un parallèle entre les cœurs et les vallées. Certains cœurs sont larges et peuvent contenir une grande science. De la même manière que certaines vallées sont larges et peuvent contenir une grande quantité d'eau. Et d'autres cœurs sont moins grands et leur capacité est limitée, de la même manière que certaines vallées sont étroites et peuvent accueillir une quantité d'eau moins importante. Donc ici Allah Azza wa Jal parle des cœurs. Et Allah Azza wa Jal parle d'un torrent. Il dit les torrents qui dévalent dans les vallées, les torrents dévalent dans les vallées selon la dimension de ces vallées. De même, les cœurs se remplissent de la lumière et de la science selon leur taille. Et observez ici, qu'Allah Azza wa Jalla vous fasse miséricorde, que lorsque le torrent déverse et il se mêle à la terre, il en transporte les débris. Et ce torrent se retrouve recouvert d'une écume, al-zabad. De même, la lumière de la science, lorsqu'elle pénètre les cœurs, elle en soulève les mauvais désirs et en retire les ambiguïtés pour les déraciner et s'en débarrasser. Et puis Allah Azza wa Jal, subhanahu wa ta'ala, cite dans ce passage un autre exemple qui est relatif au feu. Après nous avoir parlé de l'eau, Allah Azza wa Jal nous parle du feu. Il dit, une écume semblable à celle que le feu produit lors de la fabrication des bijoux et des ustensiles. L'écume ici correspond à l'amas d'impureté qui apparaît lorsque la personne fabrique des bijoux, comme l'or, l'argent, le fer ou le cuivre. Ainsi, le feu vient chasser cette écume et vient chasser cette impureté. Et il ne reste plus que l'or, et il ne reste plus que ce bijou dont les gens profitent. De même, les cœurs des croyants expulsent les ambiguïtés et les passions et s'en débarrassent, comme le feu et le torrent font avec l'écume et les débris. Et Allah Azza wa Jalla finit ce verset en disant « L'écume du torrent et du métal fondu s'en va rejeter, les mauvaises choses s'en vont, tandis que l'eau et les objets utiles aux hommes demeurent sur terre. » Que veut dire cette phrase? Que veut dire ce verset, pardon? Allah Azza wa Jalla dit « L'eau pure stagne au fond des vallées, et cette eau-là, les gens en tirent profit pour s'abreuver et pour irriguer leur terre. De la même manière que la foi pure qui s'installe au fond du cœur, elle profite aux croyants et elle profite aux gens en général. » Donc voilà le premier exemple qui parle du cœur et du rôle que le cœur joue chez l'être humain. Et malheureusement, chez beaucoup d'entre gens, chez beaucoup de personnes, les gens donnent une importance, une plus grande importance à l'apparence qu'au cœur. À l'image d'une personne qui s'habillerait des meilleurs vêtements et qui se parfumerait des plus beaux parfums, mais imaginez-vous qu'à l'intérieur, il est vide. Ou à l'image d'une maison qui extérieurement, sa façade est belle, son toit est beau, mais imaginez que les fondations à l'intérieur, imaginez que les murs porteurs à l'intérieur ne sont pas stables. C'est pourquoi, mes frères, mes sœurs, wallah, il faut faire un plus grand effort sur notre cœur. Le prophète sallam dit « At-taqwa ha-huna wa ashara ila sadrihi » La crainte d'Allah est ici. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pointé le doigt vers la poitrine. C'est-à-dire que la crainte d'Allah se trouve dans les cœurs. Et lorsque cette crainte existe dans les cœurs, forcément, elle se manifeste à l'extérieur. Le deuxième exemple, c'est dans Sourate Yunus. Allah Azza wa Jalla nous dit « Innama mathalu al-hayati al-dunya kama in anzalnahu min as-sama'i fakhtalata bihi nabatu al-ardi mimma ya'kulu an-nas wal-an'am » حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. Dans le sens du verset, Allah Azza wa Jalla dit: la vie présente, la vie d'ici-bas, est comparable à une eau que nous faisons descendre du ciel. Et cette eau se mélange à la végétation de la terre dont se nourrissent les hommes et les bêtes. Puis, lorsque tu vois la terre, prendre sa parure et s'embellir, et les gens pensent que cette terre est à leur disposition. Notre ordre lui vient de nuit ou de jour, et c'est alors que nous la rendons toute moissonnée, comme si elle n'a pas été fleurissante la veille. Ainsi, Allah Azza wa Jal, ainsi nous donnons les preuves pour des gens qui réfléchissent. Et Allah finit le verset en disant: Allah Azza wa Jal appelle à la demeure de la paix et il dit qui il veut vers le droit chemin. Que veut dire cet exemple? Dans cet exemple, Allah subhanahu wa ta'ala décrit ce bas monde coquet et plaisant à voir, si bien que l'homme est charmé. Il est tellement charmé par cette vie d'ici-bas qu'il pense vers cette vie d'ici-bas et il la chérit en étant complètement berné à son sujet. Tels des gens qui observeraient une végétation et des couleurs et la verdure, ils en sont bernés. Et Allah, puisque que cet homme, il a la certitude de posséder cette vie. Et il a l'impression qu'il peut en faire ce qu'il veut. Il en est subitement privé. Et ceci au moment où il a le plus besoin de cette vie. C'est alors que s'interpose l'ordre d'Allah Azza wa Jal entre cette vie et entre cette personne. Comme Allah Azza wa Jal dit dans un autre verset, فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ. Allah Azza wa Jal dit dans un autre verset, et lorsqu'ils eurent oublié ce que l'on leur avait rappelé, nous leur ouvrîmes les portes de tout bien. Nous leur avons donné de l'abondance, beaucoup de choses de bien. Et lorsqu'ils se sont réjouis de toute cette abondance et de toute cette vie d'ici-bas, Allah Azza wa Jal dit, nous leur saisîmes soudain, et voilà qu'ils sont désespérés. Dans cet exemple, Allah Azza wa Jal compare cette vie d'ici-bas à une terre qu'il irrigue grâce à une pluie par laquelle Allah Azza wa Jal fait pousser une végétation qui est un plaisir pour les yeux. Et lorsque l'homme voit cette végétation et cette terre remplie de cette belle végétation, cet homme est trompé et il s'imagine avoir un pouvoir sur cette vie d'ici-bas. Et il s'imagine qu'elle lui appartient et qu'il contrôle tout. Et puis un ordre vient d'Allah subhanahu wa ta'ala et il vise cette personne et il vise cette vie d'ici-bas et cette végétation disparaît. Et tout ce qui était n'est plus. Et la déception est grande et les mains sont vides. Tel est l'exemple de ce bas monde et de ceux qui lui accordent une confiance aveugle. Et de ceux qui lui accordent un espoir trompeur. Ou un espoir trompeur, pardon. Et comme cette vie d'ici-bas, regardez comment Allah Azza wa Jalla finit ce verset. Comme cette vie d'ici-bas, elle est sujette aux calamités, aux faux espoirs, à la jouissance trompeuse, et qu'en réalité, le paradis est à l'abri de tout ce que cette vie connaît comme calamité, Allah Azza wa Jal, après nous avoir parlé de cette vie d'ici-bas, et de dire de cette vie que c'est une jouissance trompeuse, Allah subhanahu wa ta'ala nous appelle vers l'au-delà, et dit, Wallahu yad'u ila dari salam. Allah subhanahu wa ta'ala appelle à la demeure de la paix. Ici, Allah Azza wa Jal donne au paradis le nom, la demeure de la paix, où on pourrait aussi traduire la demeure et les lieux saints. Car le paradis est saint de toutes les calamités et les avaries que connaissent la vie d'ici-bas. Cette vie d'ici-bas est éphémère, l'au-delà est éternel. Cette vie d'ici-bas est fatigante, l'au-delà est reposante. Cette vie d'ici-bas est une difficulté, la vie de l'au-delà est une facilité. Dans la vie d'ici-bas, on subit la maladie, et dans la vie de l'au-delà, on ne connaît que la bonne santé. Le troisième exemple, c'est un exemple qui se trouve dans Sourate Al-A'raf. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَلْهَثُ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثُ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثُ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. Allah Azza wa Jal dit dans le sens du verset, et raconte-leur l'histoire de celui à qui nous avons donné nos signes et qui s'en est dépouillé. Le diable le rattrapa et il devint des nombres et il fut des nombres des égarés. Et si nous avions voulu, nous l'aurions élevé par ses signes, par cette science. Mais il pencha vers la vie, d'ici-bas et il suiva sa propre passion. Son exemple est comparable à un chien. Si tu le laisses, il allaite. Il respire avec précipitation. Si tu le laisses, son exemple est comparable à un chien. Si tu le laisses, il allaite. Et si tu le chasses, il allaite. Tel est l'exemple des gens qui traitent de mensonges nos signes. Raconte-leur les récits des peuples précédents afin qu'ils réfléchissent. Quel mauvais exemple que ces gens qui traitent de mensonges nos signes et qui se font injustice à eux-mêmes. Celui qu'Allah Azza wa Jal guide, celui-là est le bien guidé, et celui qu'Allah égare, ceux-là sont les perdants. Quel est le sens de cette parabole? Allah subhanahu wa ta'ala, Jalla Jalaluhu, décrit ici les personnes qu'il a favorisées en leur accordant son livre et en leur enseignant ce dont beaucoup d'autres personnes ont été privées. Et malgré cela, ils n'ont pas mis cette science en pratique. Au contraire, ils ont suivi leur passion. Ils ont préféré la colère d'Allah Azza wa Jal à son agrément. Ils ont préféré ce bas monde à la vie dernière. Et ils ont préféré les créatures au Créateur. Dans cet exemple, Allah subhanahu wa ta'ala compare ces gens à des chiens. Et le chien est l'animal le plus répugnant et le moins désirable. Lorsqu'il marche, il rase le sol. Lorsqu'il marche, son museau rase le sol. Il passe son temps à renifler. Et il ne cesse de sentir son derrière, akramakumullah. Pourquoi ici Allah Azza wa Jal a-t-il comparé celui qui fait passer cette vie éphémère avant la vie de l'au-delà et qui fait passer ses penchants avant la satisfaction d'Allah Azza wa Jal et qui a délaissé la science pour l'égarement, pourquoi Allah Azza wa Jal compare cette personne au chien qui allait constamment, qui respire constamment avec précipitation? Parce que les gens qui délaissent la vie éternelle, qui délaissent la satisfaction d'Allah et qui délaissent la science, ils ne le font que parce qu'ils brûlent de passion et d'envie pour cette vie d'ici-bas. Ainsi, cette flamme qui brûle dans leur cœur et qui provoque chez eux une convoitise jamais insatisfaite est semblable à l'allaitement perpétuel du chien. Et observez, qu'Allah Azza wa Jal vous fasse miséricorde, que le chien fait partie des animaux qui allaitent le plus. Debout, assis, en marchant, arrêté, il allaite constamment. Même quand il n'a pas soif, il allaite. Quand il le laisse, il allaite. Et quand il le chasse, il allaite. Et de même, celui qui a laissé la science et qui a penché vers cette vie d'ici-bas, qui a suivi ses passions, quand tu le sermonnes, lorsque tu lui donnes et tu lui prodigues des conseils, il reste dans son égarement. Comme le chien, lorsque tu le chasses, il reste, il allait. Et cette personne, lorsque tu la laisses dans son égarement, il reste dans son égarement et il brûle de convoitise pour cette vie d'ici. Regardez cette comparaison qu'Allah Azza wa Jal donne entre le chien et cette personne. Voilà donc le sort de celui qui fait passer ses passions, ses penchants, avant la satisfaction d'Allah Azza wa Jal, qui a préféré la vie éphémère à la vie éternelle et qui a délaissé la science pour l'égarement. Qu'Allah Azza wa Jal nous en préserve. Le quatrième exemple que nous allons donner, c'est un exemple dans Sourate An-Nur. Allah Azza wa Jal dit dans le verset وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيْعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُجِّيٍّ يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. الله عز وجل dit dans ce verset: quant à ceux qui ont mécru, leurs actions sont comme un mirage dans une plaine désertique que l'assoiffé prend pour de l'eau. Puis lorsqu'il parvient, il ne trouve rien. Et il ne trouve qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui lui rend compte de toutes ses actions, et Allah azza wa jal est rapide pour faire les comptes. Ou alors cette personne, Allah azza wa jal nous dit, ou alors les actions de cette personne ressemblent aux ténèbres d'une mer profonde, recouvertes par des vagues au-dessus desquelles s'élèvent d'autres vagues, sur lesquelles il y a un épais nuage. Comme des ténèbres les unes au-dessus des autres. Si bien que celui qui sort la main ne la distingue pas, et celui à qui Allah Azza wa Jal l'a privé de lumière, celui-là n'a aucune lumière. Donc dans cet exemple et dans cette parabole, Allah Azza wa Jal, subhanahu wa ta'ala, illustre l'état des mécréants par deux exemples. Le premier est celui d'un mirage, et l'autre est celui d'un amas et d'un mont de ténèbres. Ceci parce que les gens qui se détournent de la lumière et de la vérité sont de deux sortes. Il y a d'abord ceux qui sont persuadés d'avoir raison et qui sont persuadés d'être sur la vérité, mais ils découvrent ensuite le contraire de ce qu'ils pensaient, de ce qu'ils s'imaginaient, lorsque la vérité éclate au grand jour. Cela est le cas des mécréants, cela est le cas des innovateurs et de ceux qui suivent leur passion et qui pensent être sur la bonne voie et qui pensent agir conformément. Et puis lorsque la vérité lui est dévoilée, il se rend compte de son égarement. Il se rend compte que ses idées, ses théories, ses grandes pensées, ses croyances, ses actes, ses actions, ils sont comparables à un mirage que les yeux prennent pour de l'eau alors qu'il n'en est rien. Et ceci à un moment où il en aura le plus besoin. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla nous parle de la personne qui est assoiffée. Parce qu'on sait que lorsqu'on est assoiffé dans une terre désertique, vous vous imaginez cette personne comment elle est assoiffée, et vous vous imaginez la déception de cette personne qui ne trouve rien d'autre, qui ne trouve rien si ce n'est un mirage. Et il a été rapporté dans l'authentique de Bukhari, d'après Abu Sa'id ibn al-Khudri radiallahu anhu, et ce hadith illustre bien ce verset du Coran. Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au jour de la résurrection, on fera venir l'enfer. Imaginez-vous qu'Allah azza wa jal fera venir l'enfer. Et l'enfer aura l'apparence d'un mirage, aura l'apparence d'une source d'eau. Vous allez comprendre pourquoi. Et on demandera aux Juifs, qui adorez-vous? Qui adoriez-vous? Et les Juifs diront, nous adorions Uzayr, le fils d'Allah. Et on leur dira, vous avez menti, Allah Azza wa Jal n'avait ni compagne, ni enfant. Et on leur demandera quel est votre souhait. Imaginez-vous ce jour de soif, et en face d'eux, ils ont un mirage, une source d'eau. Ils diront que tu nous abreuves, ô Allah subhanahu wa ta'ala. Alors Allah leur dira, buvez. Et ils se précipiteront vers l'enfer en pensant que cet enfer est une source d'eau, alors que ce n'est qu'un mirage. Et de même, on fera avec les chrétiens. On leur demandera, qui adoriez-vous donc? Ils diront, nous adorions Isa, le fils de Dieu. Ta'ala Allahu amma yaquluna 'uluwan kabira. Et on leur dira, vous mentez, Allah subhanahu wa ta'ala n'a ni compagne ni enfant. Et on leur demandera, quel est votre souhait? Imaginez ces personnes qui pensaient être sur la vérité, qui pensaient être sur le droit chemin. Ils diront, Isa, ils diront, nous voulons de l'eau. Lorsqu'Allah Azza wa Jalla leur demandera, que voulez-vous? Alors ils se précipiteront vers l'enfer en pensant que cet enfer est une source d'eau, mais en réalité c'est un mirage. Voilà un exemple concret. Voilà un hadith prophétique qui vient clairement expliquer le verset que nous avons cité. La deuxième catégorie des gens qui est citée dans ce verset, ce sont ceux qui vivent dans un amas de ténèbres. Il peut s'agir ici de ceux qui suivaient les autres, les gens de l'innovation, ou les gens qui suivent aveuglément d'autres personnes, les personnes de la première catégorie. Donc parfois c'est des personnes qui peuvent connaître la vérité et le droit chemin, mais ils préfèrent les ténèbres du faux à l'égarement. Ces gens-là, Allah Azza wa Jalla nous dit, ils sont dans l'obscurité de leur attitude, de leur âme et de leur ignorance. Ils ressemblent donc à des gens en pleine mer, recouverts par une vague, elle-même recouverte par une autre vague, et elle-même recouverte par de sombres nuages. Au point où lorsqu'il sort sa main, il ne la voit même pas. Imaginez-vous l'égarement de ces personnes, qu'Allah Azza wa Jalla nous en préserve. Le cinquième exemple, c'est un exemple dans Sourate Al-Baqarah. Allah Azza wa Jalla nous dit « مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِئَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. Dans le sens du verset, Allah Azza wa Jalla dit, l'exemple de ceux qui dépensent leurs biens dans le sentier d'Allah Azza wa Jalla ressemble à un grain d'où naissent 7 épis. Et chaque épi contiendra 100 grains. Et Allah Azza wa Jalla multiplie la récompense à qui il veut, et Allah est immensément généreux, et il est Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui est savant. Ici, Allah Azza wa Jalla compare ce qui est donné dans la voie d'Allah Azza wa Jalla à des grains que l'on plante et qui ont chacun ou chacune donné 7 épis, qui contiennent, chacun contient 100 grains. Et ici, la voie, la dépense qui est donnée dans sa voie, désigne la lutte, où elle désigne aussi tous les voies du bien. Donc Allah subhanahu wa ta'ala multiplie selon l'état du donateur, de celui qui donne la charité, selon sa foi, selon la pureté de son intention, selon la bienveillance d'Allah azza wa jalla. C'est pour ça qu'Allah dit « Wallahu wasi'un alim ». Allah sait ce que vous faites et Allah azza wa jalla est généreusement immense, subhanahu wa ta'ala. Sa générosité, Allah est généreusement immense, subhanahu wa ta'ala. Et Allah Azza wa Jal multiplie aussi cette action selon l'utilité et selon l'importance et l'effet de ce don. Car sans aucun doute, la dépense que l'on donne et la charité que l'on donne, elle dépend de la foi, de la sincérité et de la fermeté qui habite le cœur au moment où on donne l'aumône. Lorsqu'on donne l'aumône, il faut la donner avec un cœur ferme, sans hésitation. Et ici, la fermeté, que signifie-t-elle ? Elle signifie que lorsque on donne l'aumône, on le fait avec un cœur ferme, c'est-à-dire on est heureux de le faire. Et l'objet de la dépense, il a déjà quitté le cœur avant d'avoir quitté notre main. Tellement on est heureux et content de donner pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le croyant, il a donc le cœur ferme au moment de donner l'aumône et il n'est nullement attristé ou détaché de ce qu'il a donné. Au contraire, il donne d'une main, il donne d'une main ferme. Et ceci contrairement à celui qui donne son aumône avec une main tremblante, comme son cœur est tremblant. Il craint la pauvreté, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne que celui qui donne une aumône, sa richesse ne fait qu'augmenter. Parce qu'Allah azza wa jal est généreux, tabaraka wa ta'ala. Le sixième exemple que nous allons donner, c'est dans Surat Ali Imran. Allah azza wa jal dit إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. الله عز وجل dit dans le sens du verset: quant à ceux qui ne croient pas, ni leurs biens, ni leurs enfants ne pourront les mettre à l'abri d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce sont les gens du feu, ils y demeureront éternellement. Ce qu'ils donnent, ce qu'ils dépensent dans la vie d'ici-bas, ressemble à un vent glacial qui s'abat sur un champ appartenant à des gens qui se sont lésés eux-mêmes. Et ce vent glacial vient détruire ce champ. Allah Azza wa Jalla n'est pas injuste avec eux, mais ce sont eux-mêmes qui se sont fait injustice. Ici, Allah Azza wa Jal, subhanahu wa ta'ala, nous informe que les richesses et les enfants de ceux qui ont mécru ne les mettront jamais à l'abri d'Allah subhanahu wa ta'ala, ni de son châtiment. Et ceci, car dans cette vie d'ici-bas, la richesse d'une personne, son rang social, ses enfants, peuvent lui être d'un recours dans une difficulté ou lorsque les gens lui font un reproche. Il peut arriver que les richesses et les enfants de cet homme le délivrent de cette difficulté. Mais Allah Azza wa Jalla nous dit ici que dans l'au-delà, ni les richesses ni les enfants, même s'ils sont abondants, ne mettront la personne à l'abri du châtiment d'Allah Azza wa Jal et ne mettront à l'abri personne d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ici Allah Azza wa Jal compare aussi les mécréants qui dépensent de leur argent pour barrer la voie droite aux gens et pour empêcher les gens de suivre la religion d'Allah Azza wa Jal. Allah compare ces gens-là dans leurs dépenses à une plantation dont le propriétaire, après la bonne récolte, son champ est dévasté par un vent glacial, que le vent froid souffle et il consume toute végétation sur son passage, si bien que son champ est retrouvé saccagé et le retrouvé complètement anéanti. Toutes ces richesses dépensées elles ont été anéanties par Aaron et la sienne. Et ces gens-là sont comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ حَسْرَةً عَلَيْهِمْ ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ. Allah Azza wa Jalla dit à propos de ces gens, il dit, ceux qui ont mécru dépensent leurs biens pour barrer le chemin d'Allah. Regardez ici une petite parenthèse. Les mécréants dépensent de leurs biens pour barrer le chemin d'Allah. Où sont ces croyants qui dépensent de leurs biens pour ouvrir le chemin d'Allah aux gens? Allah Azza wa Jalla dit, ceux qui ont mécru dépensent de leurs biens pour barrer le chemin d'Allah, et après les avoir dépensés, ils seront pour eux, toutes ces richesses et ces dépenses, un sujet de regret. Puis ils seront vaincus. Regardez cette promesse d'Allah. Ils seront vaincus et tous ceux qui ne croient pas en Allah seront ressuscités en enfer et rassemblés en enfer. On finit avec ce dernier verset, Inch'Allah. Je me permets de prendre 2-3 minutes et on va terminer. Parce que c'est un exemple très important. Cet exemple, c'est un exemple dans Sourate Al-Hujurat. Allah Azza wa Jalla dit, « Ya ayyuha alladhina amanu jtanibu kathiran min al-dhan, inna ba'd al-dhan ith, wa la tajassasu, wa la yaghtab ba'dukum ba'da, ayuhibbu ahadukum an yakula lahma akhihi mayyitan fakarihtumu, wa attaqullaha inna allaha tawwabur rahim. » Allah Azza wa Jalla dit, ô vous les croyants, évitez de faire trop de suppositions sur les autres. Certaines suppositions sont un péché. Et il dit, ne vous espionnez pas. Et il dit, ne médisez pas les uns sur les autres. L'un de vous aimerait-il manger la chair de son frère? Non. Vous en auriez horreur et craignez Allah Azza wa Jalla. Car Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui accepte le repentir et il est le miséricordieux. Ici, Allah Azza wa Jalla compare le fait d'écorcher l'honneur de son frère au fait de déchirer sa viande et sa chair. Puisque la personne qui médit viole l'honneur de son frère en son absence, et il ressemble à cela à quelqu'un qui déchire la viande de son frère en l'absence de son âme, après sa mort. Pourquoi cela? Pourquoi Allah Azza wa Jalla nous parle de manger la viande de son frère mort? Parce que la personne sur qui les gens pratiquent la médisance, elle est incapable de prendre sa défense face à ce qu'on lui reproche, puisqu'elle est absente. Lorsque les gens parlent sur cette personne n'est pas là pour se défendre. Elle ressemble donc à un mort qu'on découpe sans qu'il puisse se défendre. Alors que la fraternité, al-Ukhuwa, elle implique l'entraide et elle implique d'honorer son frère et elle implique de ne pas critiquer, d'accuser et de s'en prendre à son frère. C'est pourquoi Allah Azza wa Jalla dit de même que vous détesteriez manger la chair de votre frère mort, de même vous devez détester pratiquer la médisance. Voilà pour ce qui était des exemples dans le Coran, et on a besoin de méditer le Coran de manière générale et en particulier les exemples. Regardez ce qu'Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, il dit لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Allah Azza wa Jalla dit, si nous avions fait descendre ce Coran sur une montagne, tu aurais vu cette montagne s'humilier et se fendre par la crainte d'Allah Azza wa Jalla. Et ces paraboles, nous les citons afin que les gens réfléchissent. Regardez une montagne ferme, immense. Si Allah Azza wa Jalla révélait sur cette montagne le Coran, cette montagne se fendrait. Est-ce que nous, lorsqu'on lit le Coran, notre cœur se fend? Est-ce que notre cœur s'humilie? Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, dit, celui qui, lorsqu'il entend le Coran, son cœur ne s'humilie pas, qu'il demande à Allah de lui donner un cœur, parce qu'il n'a pas de cœur. نسأل الله العافية سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك